Bon matin, l'espoir, Doxa, Saint-Hubert, l'espoir Saint-Hubert. Bienvenue à tous, très content de vous retrouver, très heureux de vous retrouver. On poursuit cette belle série sur la crainte de Dieu. C'est un sujet qu'on aborde peut-être pas assez souvent dans nos églises. C'est un sujet qui est complexe. C'est vraiment notre prière, c'est qu'à la fin de cette série, il nous reste encore dimanche prochain, vraiment l'Église prenne plaisir à s'approcher de Dieu en voyant toute sa majesté, toute sa gloire, toute sa grandeur. Vous savez, c'est quoi la vision de cette Église? Nous prions pour être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Et c'est d'émerveillement dont on va parler ce matin. Lorsqu'on parle de craindre Dieu, on parle de saisir la grandeur de Dieu. On n'approche pas un être banal lorsqu'on vient l'adorer. On s'en vient devant un Dieu qui est à la fois grand, immense, qui peut être terrible, mais qui est majestueux, qui est merveilleux et qui est aimant. La semaine dernière, juste pour vous rappeler, ce qu'on a vu ensemble, c'est que de prendre la grandeur, appréhender la grandeur de Dieu, nous conduit dans un amour tremblant de joie et d'émerveillement, littéralement. Et je tenais à vous rappeler aussi, on n'est pas dans une série standard pour l'espoir. Donc, normalement, à l'espoir, on expose des livres bibliques, on traverse un livre ensemble. Mais ce qu'on fait actuellement, c'est une série par sujet, une série topique. Et elle est vraiment basée sur un excellent petit livre. Je reviens là-dessus par transparence, mais aussi pour vous encourager à le lire. Donc, le livre s'intitule « Réjouissez-vous et tremblez » de Michael Reeves. Et la semaine prochaine, on aura la table de livres. Si vous voulez en avoir une copie, vous pouvez toujours aller voir François pour être certain que nous aurons suffisamment de copies. Mais moi, je veux vous encourager à lire ce livre-là. Vraiment pour asseoir comme il faut votre compréhension de cette notion qui n'est pas étrange pour l'être humain. L'idée de craindre Dieu, ce n'est pas étrange pour la majorité des gens sur la terre, mais pour les Occidentaux, par exemple. Oh! L'idée d'un Dieu qui est aimant et qu'un Dieu que nous allons craindre cohabite ensemble, même au contraire que de craindre ce Dieu-là, c'est une manière de l'aimer. Ça peut résonner de manière très, très étrange dans les oreilles des Occidentaux où notre vision de l'amour, notre vision de Dieu est rendue tellement légère que pour nous, l'amour efface tout. Ça amène une familiarité qui est très, très loin des Écritures. Ça amène une intimité selon les Écritures, mais pas une familiarité. C'est pas la même chose, c'est assez différent. Et donc, je pense qu'on va avoir du bon temps ensemble dans la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier et ensuite, on va écouter la lecture des Écritures. On va lire ensemble la parole. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. Nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre intelligence. Viens, Seigneur, nous éclairer ce matin. Que ta parole puisse vraiment faire sens en nous, trouver toute sa vérité en nous. Notre désir, Seigneur, c'est d'apprendre à t'aimer profondément, à t'adorer, à te chérir tel que tu es, à te connaître tel que tu te révèles à nous, Seigneur. Viens à notre rencontre ce matin, viens ouvrir les yeux de notre cœur. Et si quelques personnes ici ce matin ne te connaissent pas intimement, viens leur révéler la grandeur de ton être et la grandeur de ton amour, Seigneur Jésus. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen.
Bon matin. Donc, la lecture de ce matin sera le psaume 8 dans la nouvelle édition de Genève. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu ne prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur tes œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Merci, Julie. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Jean Calvin, pour toutes sortes de raisons. Mais Jean Calvin était une personne assez exceptionnelle. C'est un des grands réformateurs de l'histoire de l'Église. Toute la période de la réforme protestante, c'est un des joueurs vraiment clés. Et c'était aussi un être extrêmement intelligent. À 27 ans, il a publié, sa thèse théologique qui résume sa pensée. Il va travailler dessus pratiquement jusqu'à sa mort. Il a commencé à l'écrire beaucoup plus tôt même. Et donc, ça s'appelle « Les institutions chrétiennes ». Et c'est vraiment une somme théologique, un des ouvrages les plus importants dans l'histoire de l'Église, j'oserais dire. Publié ça à 27 ans. Et un élément qui est très éclairant dans son approche, dans sa manière de voir comment on en vient à connaître Dieu. Qu'est-ce qui permet à des êtres comme vous et moi, on n'est pas Dieu, Dieu est invisible, Dieu est grand, Dieu est infini, comment on en vient à connaître Dieu? Et Jean Calvin disait, bien, c'est un processus. On commence par connaître le Dieu créateur. On peut le connaître à travers la création même. Déjà, la création nous parle d'un créateur. Et une fois qu'on a découvert le Dieu créateur, éventuellement, on en vient à découvrir le Dieu sauveur, le Dieu rédempteur, à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout le monde qui va découvrir le Dieu créateur qui va nécessairement découvrir le Dieu rédempteur. Je trouvais ça intéressant comme manière de saisir qui est Dieu, quelle est sa grandeur. Et ça nous parle de la crainte de Dieu parce que lorsque tu découvres le Dieu créateur, bien, tu prends la mesure de ce que tu es. Tu n'es définitivement pas le créateur de ton existence, malgré toute la prétention qu'on peut avoir. Je trouvais ça vraiment intéressant. Voici comment je résumerais l'exposé biblique de ce matin. La connaissance de Dieu nous conduit dans l'émerveillement quand nous le connaissons à la fois, quand nous connaissons à la fois la grandeur du Créateur et celle du Rédempteur. On commence par découvrir le Créateur, ensuite on découvre le Rédempteur et on apprend à prendre la mesure de ce Dieu extraordinaire. Deux aspects de la personne de Dieu qui nous aident à le connaître. Et la vision de cette Église, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Retenez ça, c'est super important. Premièrement, la grandeur du Dieu créateur. David dit dans le psaume que Julie vient de nous lire tout à l'heure, au verset 4 et 5, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » David est spontanément en train d'exprimer le sentiment, la réflexion d'une personne qui réalise tout à coup, comme ça peut nous arriver. Hein. Il y a un moment où, lorsqu'on passe de l'enfance à l'adolescence, on s'en va vers l'âge adulte, il y a un moment où ton cerveau commence à faire toutes sortes d'abstractions. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, je l'ai décrit quelques fois à travers les années, parce que moi, ça m'a marqué. Il y a un moment où tu es là, tu es peut-être assis dans ton lit, tu es peut-être en train de regarder les étoiles, puis tu dis « je pense que je ne suis pas le centre de l'univers. » Comme on dirait, je ne sais pas, il y a deux fils qui viennent de connecter. Tu passes à un mode abstrait, puis tu dis, « Ouf, je suis rien, moi, dans l'univers. Je suis minuscule. » Puis là, tu commences à considérer la grandeur, puis le temps de ta vie, la grandeur de l'univers, le fait que toi, tu es très limité. David est simplement en train de dire, « Quand je considère tes œuvres, tout ce que tu as créé, mais qui suis-je? Et que sont les êtres humains pour que tu prennes garde à eux? » De la même manière que nous, lorsqu'on marche, en train de prendre une marche, on voit une fourmi passer, on ne va pas nécessairement faire un grand détour. On va continuer notre chemin. Et David est simplement en train d'exprimer le sentiment que des milliards d'êtres humains ont vécu à un moment ou l'autre de leur vie, en réalisant qu'ils sont des êtres finis, limités, petits, pas éternels, pas dans notre perspective. La mort vient bientôt. Et tu mesures la grandeur de Dieu. Michael Reeves écrit dans son livre, « La première sorte de crainte juste, donc une bonne crainte de Dieu, est celle qui nous fait trembler et qui rend nos jambes flagellantes devant le fait que Dieu est créateur. Elle permet d'apprécier et de se réjouir du fait que Dieu est splendide dans sa transcendance, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, partout, au-delà de la création. Dieu est saint, majestueux, parfait, tout-puissant, éblouissant dans toutes ses perfections. C'est une crainte juste. C'est comme un moment de lucidité qui vient dans ta vie. Et tous les influenceurs du monde pourront dire, « Non, non, tu es au contrôle de ta destinée. » On a tous des moments de lucidité où on réalise, je ne suis pas au contrôle de grand-chose. Je vais essayer de bien faire avec ce que j'arrive à contrôler, mais c'est très peu de choses en réalité dans ma destinée. Il n'y a personne ici qui a décidé de naître dans le pays où il est né, et ça commandait déjà beaucoup de choses sur votre avenir. Et c'est une crainte juste, c'est une bonne vision de Dieu, de prendre la mesure du fait que Dieu est infini, Dieu est tout-puissant, Dieu est grand. Et on voit cette crainte-là dans les Écritures. Lorsque des êtres humains arrivent dans la présence de Dieu, naturellement, ils vont trembler. Ils vont être extraordinairement impressionnés. Pas juste impressionnés, incroyablement pris d'un vertige devant la grandeur de Dieu et le fait qu'ils sont limités, qu'ils sont petits. La majesté du Créateur, on voit ça dans la vision d'Ésaïe, dans Ésaïe 6, versets 1 à 5. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Essayez d'imaginer un instant, là. Essayez de vous porter avec Ésaïe. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. » Deux dont il se couvrait les pieds par marque d'humilité, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Réaction saine d'un être humain qui est dans la présence de Dieu. Intuitif, aucune réflexion, gros moment de lucidité, je suis dans le trouble. Parce que je suis dans la présence de celui qui est saint, saint, saint. Vision de Job. Job, écrit dans Job 42, versets 5-6. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » À plusieurs reprises dans les Écritures, on a des êtres humains qui arrivent dans la présence de Dieu. Et tout d'un coup, il y a un moment de lucidité extraordinaire où ils sont saisis d'une crainte parce qu'ils réalisent la différence, la distance, la proportion, la grandeur de Dieu et leur petitesse devant Dieu. Petitesse comme être fini, limité, mais pécheur, impur, inapte à entrer dans la présence de Dieu. Et là, ils sont saisis d'une crainte. Et il y a une forme d'adoration qui est là. Mais remarquez que saisir la grandeur de Dieu ne conduit pas automatiquement à l'adoration. Il y a bien des gens qui peuvent prendre la mesure du fait qu'ils ne sont pas auteurs de leur vie, puis qu'il y a certainement un créateur quelque part. Ça ne les conduit pas nécessairement à adorer Dieu. Ce n'est pas automatique. Jacques dira dans Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Eux qui connaissent la grandeur de Dieu ne sont pas conduits à l'adoration. Voyez-vous, c'est possible devant l'inconnu, le Tout-Puissant, ce sentiment où tu dis, finalement, je ne suis pas au contrôle de grand-chose. Il y a sûrement un Créateur qui a créé l'univers, mais il est loin, il est grand, et je ne veux certainement pas qu'il réclame quoi que ce soit sur ma vie. C'est tout à fait possible, une fois que tu as ce sentiment-là, que tu vis dans l'univers que quelqu'un d'autre a créé, tu prennes la fuite et tu cours pour t'éloigner de lui. Parce que voyez-vous, naturellement, nous sommes pécheurs. Cette idée de dire que la bonne réponse, lorsque je réalise qu'il y a un Dieu, il y a un Créateur, il y a quelqu'un qui a créé cet univers magnifique. Je vous ai tous les scientifiques qui découvrent à quel point l'univers est incroyablement complexe, ordonné, organisé. Un grand nombre d'entre eux reconnaissent qu'il y a un Créateur. Je regardais des chiffres il n'y a pas si longtemps. un très grand nombre d'entre eux. En fait, une grande majorité des gens qui ont gagné des prix Nobel en sciences croient dans l'existence de Dieu. Mais est-ce que tous les scientifiques, tous ceux qui voient la complexité de l'univers, l'improbabilité d'une terre incroyable où on peut vivre comme ça, de notre existence, est-ce qu'ils sont tous conduits à cet endroit où ils s'humilient devant Dieu et disent « OK, il y a un designer derrière ça ». Non, maintenant, la science nous dit « c'est plutôt arrêté, il n'y a pas de créateur, tout est accidentel ». Donc, c'est possible de prendre la mesure de l'univers et de faire exactement l'opposé, courir dans l'autre direction. Réaliser qu'il y a un créateur derrière tout ça ne te conduit pas automatiquement à l'adoration. Et donc, peut-être que tu n'es pas un adorateur de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas dans l'existence de Dieu. Ça veut peut-être simplement dire que ça ne t'intéresse pas de le laisser gouverner ta vie. Peut-être. Peut-être. Dans les Écritures, il y a une idée qui est profondément biblique, c'est que pour connaître notre Créateur, il nous faut découvrir notre Sauveur, notre Rédempteur. Et j'aime ce que Michael Reeves apporte, puis en fait, ça ne vient pas de lui, c'est exactement dans la pensée de Jean Calvin, ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment où tu réalises qu'il y a un Créateur qui a créé tout l'univers, mais que tu découvres aussi qu'il n'est pas impersonnel, distant, mais qu'il veut sauver, qu'il veut nous sauver, tu découvres en lui le Rédempteur, celui qui vient nous sauver, sa grandeur devient extraordinairement rassurante. Tu as envie de commencer à l'adorer, à l'admirer. Ça change ta perspective complètement. L'œuvre de rédemption nous réconcilie avec la grandeur de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, ça se peut que tu vois que Dieu est grand, Dieu est infini, Dieu est merveilleux, puis en fait, tu as juste envie de te pousser loin de lui. Je pense que c'est ce que plusieurs de ceux qui, comme moi, ont entendu l'Évangile très tôt. J'ai entendu l'Évangile à partir de l'âge de 6-7 ans. Je me suis converti à 19 ans. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui me déplaisait dans l'Évangile? C'est que ce grand Dieu-là, souverain, et j'ai prié ce Dieu-là pendant que je marchais pas dans ses voies. Il m'est arrivé de le prier quand je faisais vraiment des grosses bêtises. J'allais dans la prière. Mais fondamentalement, je voulais pas qu'il gouverne ma vie. Sa grandeur, sa souveraineté, le fait que je le savais tout puissant, ne me conduisait pas à m'humilier devant lui et à venir l'adorer, l'aimer, m'approcher de lui, courir dans sa direction. C'est à travers l'œuvre de Jésus-Christ qu'on découvre parfaitement la rédemption et qu'on découvre parfaitement Dieu. On se promène dans beaucoup de passages ce matin. Dans Jean 14, versets 8 à 10, un des disciples de Jésus lui dit, alors c'est Philippe qui parle, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? » Jésus pouvait bien troubler les autorités religieuses de son temps. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus est venu pour nous sauver, mais il nous sauve premièrement en nous révélant le Dieu sauveur. Jésus est venu pour nous sauver en mourant sur la croix pour nous. Et ce qu'on découvre à travers cette œuvre-là, ce n'est pas seulement un Créateur, c'est un Rédempteur. C'est un Dieu sauveur. Et donc, celui qui saisit combien Dieu est grand, mais qui sait que ce Dieu-là nous aime en Jésus-Christ. Celui-là va courir vers Dieu pour l'adorer. Je peux avoir le même vertige que celui qui fuit, parce que je prends la mesure de Dieu et je réalise que moi, je suis tout petit, je suis limité, ma vie est courte, je contrôle peu de choses. L'univers est extraordinairement grand. Je peux être pris du même vertige, mais au lieu de me pousser, je vais courir vers Dieu pour venir l'adorer, parce que je sais qu'il court vers moi. Je connais le Dieu rédempteur. J'ai découvert le Dieu rédempteur. Isaac Watts, ça dira quelque chose à plusieurs, a écrit plus de 750 hymnes. Et il y avait un moment où il fuyait Dieu. Il voyait la grandeur de Dieu et c'était trop effrayant pour lui. Il se disait, ce Dieu-là, je ne veux pas m'en approcher. Mais voici comment Michael Reeves résume l'évolution de son cheminement. Il dit, Watts a approfondi la connaissance de Dieu. Il ne connaissait pas seulement Dieu le Créateur, il connaissait aussi Dieu le Rédempteur en Christ. Et connaître Dieu en tant que Rédempteur, humble, gracieux, rempli de compassion, embellit la vision que nous avons de sa majesté transcendante en tant que Créateur. Notre admiration devant la magnificence du Créateur et la joie que nous en éprouvons croissent quand nous comprenons quelle est la parfaite magnificence du tendre Sauveur. Quand nous connaissons Dieu en tant que Rédempteur, nous sommes libérés de tous les doutes au sujet du caractère de Dieu. Nous sommes libérés de toutes les peurs, comme celle de ce Dieu impressionnant qui pourrait être contre nous. Prendre la mesure de la grandeur de Dieu quand tu sais qu'il t'a aimé en Jésus-Christ enlève cette crainte d'un être tellement puissant. Il s'agit qu'il tousse puis tu disparais. Mais une fois que tu l'as connu en Jésus-Christ, ça change tout. Celui qui était une menace devient un abri. Celui qui était un danger devient ma sécurité. Celui qui était mon juge devient mon bienfaiteur. Parce que je le découvre en Jésus-Christ. Il n'est pas plus petit. Ce n'est pas que lorsque je découvre l'Évangile, Dieu devient accessible, il devient tout petit. C'est quoi qu'on a dit la semaine dernière? Jésus, ce n'est pas un bain de mousse. Non, Jésus, ce n'est pas un bain de mousse. Ce n'est pas un teddy bear. La montagne n'est pas plus petite. Dieu est aussi grand. Pourtant, celui qui était une menace, un danger, devient pour moi un refuge. Et je peux commencer à m'approcher de lui pour l'adorer, entrer dans sa présence. Dans Jean 17:3, on lit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Des fois, comme chrétien, on a l'impression que ceux qui aiment étudier ces qualités-là de Dieu, tu sais, c'est bon pour les intellos, c'est pas concret. Moi, j'ai besoin, ma vie chrétienne, ça doit être une vie dans l'action. Mais la vie éternelle, c'est pas l'action. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Des fois, ce que tu as besoin de faire, ce n'est pas de faire quelque chose de plus pour ta vie chrétienne. C'est que tu as besoin de t'arrêter pour aller dans la présence de Dieu et être émerveillé par lui. Parce que lorsque tu entres dans cet état-là d'émerveillement, toute chose prend une autre perspective. Tantôt, je parlais avec un frère qui vit toutes sortes de choses, inondations d'eau dans la maison, tout le kit. En plus, il vit dans un secteur, ça a l'air qu'il y a un secteur sur la rive sud qui n'a pas d'électricité ce matin. J'ai entendu ça, 71 000 foyers sans électricité. Et il est ici en train d'adorer ce matin. Je pense que lorsqu'il va quitter, son cœur va être plus serein que s'il était resté chez lui ce matin à se démener comme un fou pour essayer de régler tous les problèmes. Être émerveillé par la grandeur de Dieu, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas quelque chose pour les intellos, les théologiens. Non, c'est quelque chose d'infiniment pratique qui vient placer ton cœur au bon endroit. Toutes choses prennent leur juste proportion. Et c'est souvent bien plus de ça dont on a besoin que de trouver le prochain geste à poser comme chrétien, la prochaine action. La prochaine action, c'est peut-être d'arrêter l'action et de venir rencontrer Dieu. Tout à l'heure, je vous parlais des institutions chrétiennes de Jean Calvin. Écoute, commence par lire ta Bible au complet. Si tu n'as jamais lu la Bible au complet, prochain livre à lire, la Bible, lis-moi ça au complet dans la prochaine année, s'il te plaît. Tu vas voir, c'est un livre extraordinaire. Tu pourrais t'en parler pendant des heures. Tu as juste à rester avec nous. Mais après ça, institutions chrétiennes de Jean Calvin. Tu vas tomber à genoux. Tu vas dire, waouh, Dieu, t'es incroyable. T'es incroyable. T'es incroyable. Toujours Michael Reeves qui dit, la grandeur de Dieu attire notre regard vers le haut et nous empêche de nous concentrer sur nous-mêmes. Amen. Combien ici ont besoin maintenant, cette semaine, d'arrêter de se concentrer sur eux-mêmes pour tourner leur regard vers le haut? Moi, je suis le premier. Je suis le premier. J'en ai tellement, tellement besoin. Nous nous émerveillons devant un être plus grand que nous. C'est pourquoi nous diminuons. Sa magnificence nous détourne de nous-mêmes. Amen! Et nous écarte de nos obsessions quotidiennes. Nous développons un goût pour autre chose que nous-mêmes. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Quand je peux m'oublier, ça fait tellement du bien. En même temps, nos pensées sont élevées et purifiées alors que nous considérons celui qui est plus grand et plus pur que nous. Je trouve ça intéressant. Reeves cite une étude qui a été faite. J'ai pris le temps même d'aller chercher l'étude. Quand un théologien cite une étude scientifique, là, prenez le temps de faire des petites vérifications, mais c'était kosher, son enfant. C'était legit. C'était correct. Une étude qui a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology. Puis j'ai juste pris le résumé au début de l'étude, l'abstract en anglais. Et je vais juste vous le lire parce que c'est vraiment intéressant. Ils ont fait une étude sur ce qu'apporte dans, comme l'esprit humain, le fait de vivre un état d'émerveillement envers quelqu'un qui est plus grand que nous. Et comment ça nous transforme, ça produit de l'humilité, même ça améliore nos relations humaines. Vous trouvez ça intéressant? Donc, je vous lis ça rapidement, c'est le résumé au début de l'étude. Vous pouvez la trouver, ça s'appelle « Awe and Humility ». Vous allez trouver ça facilement sur Internet. Ça a été publié dans le Journal of Psychology, of Personality and Social Psychology. L'humilité est une vertu fondamentale, intéressant, qui s'oppose aux penchants égoïstes tels que la suffisance, l'arrogance et le narcissisme. Donc, les chercheurs disent, nous émettons l'hypothèse que les expériences d'émerveillement favorisent une plus grande humilité. Nous proposons que lorsque les individus rencontrent une entité qui est vaste et qui remet en question leur vision du monde, ils se sentent plus humbles. Intéressant. Ils ressentent de l'admiration, ce qui les conduit à se dévaloriser, dans le bon sens du terme, puis à faire preuve d'humilité. À l'appui de ces affirmations, les personnes sujettes à l'émerveillement ont été jugées plus humbles par leurs amis. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui aimeraient que tu sois plus humble? Parce qu'on peut faire un sondage, si vous voulez. Je suis sûr que tu peux trouver des gens autour de toi qui apprécieraient un peu plus d'humilité dans tes relations humaines. Amen? Peut-être que tu as besoin d'aller adorer Dieu. Qui l'eût cru, hein? Va adorer Dieu, puis tes relations humaines vont s'améliorer. Je ne sais pas si la Bible dit ça à quelque part. À l'appui de ces affirmations, les personnes sujettes à l'émerveillement ont été jugées plus humbles par leurs amis et ont fait état d'une plus grande humilité de leur part. Le fait de susciter l'admiration a conduit les participants à présenter aux autres une vision plus équilibrée de leurs forces et de leurs faiblesses et à reconnaître dans une plus large mesure la contribution de forces extérieures à leur propre réalisation personnelle. Pris dans leur ensemble, ces résultats révèlent que l'émerveillement offre une voie vers une plus grande humilité. Intéressant, hein? Très intéressant. Lorsqu'on s'est donné cette vision pour l'Église de l'Espoir, être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté, c'est que nous croyons profondément que le bon moteur, le bon motif pour tout ce que nous faisons dans la vie, c'est d'être émerveillé par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'à travers lui, à travers son œuvre, on découvre Dieu. On en vient à connaître le Dieu, notre Rédempteur. Et donc, si ta vie ne va pas bien en ce moment, il y a fort à parier qu'elle pourrait s'améliorer si tu t'approchais de Dieu pour le contempler, l'admirer, l'adorer, prendre la mesure de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour toi en Jésus-Christ. Il y a fort à parier que ta vie pourrait prendre une meilleure direction, retrouver de la paix, de la joie, du repos, ça se peut même que les gens autour de toi disent « Hey, il y a quelque chose qui a changé chez toi. » Ta réponse, ça va être quoi? « Écoute, je suis émerveillé par Jésus-Christ, par mon Dieu. » Qui eût cru qu'adorer Dieu pouvait changer nos relations? Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ben, quand tu es émerveillé par la personne de Christ, tu ne peux pas passer ta journée à jouer à des jeux vidéo. Ça devient un peu banal. Binger sur Netflix. J'ai mieux à faire, je pourrais aller adorer Dieu. Et ça peut se refléter dans plein de domaines. Parce qu'une grande partie de notre vie est consacrée à fuir des choses. Mais une fois que tu t'approches de ce Dieu-là merveilleux, à travers l'œuvre de Christ, tu n'es plus en train de fuir. Tu es en train de courir vers l'être le plus puissant. Mais qui va t'effrayer après? De qui vas-tu avoir peur si tu prends plaisir à être dans la présence de ton Créateur, du Tout-Puissant? C'est un beau remède à toutes ces fuites que nous vivons, chacun d'entre nous, dans toutes sortes de domaines dans nos vies. On va chercher une espèce de sécurité, une petite shot d'endorphine. Alors que c'est auprès de Dieu qu'on devrait être en train de le trouver. Et je termine avec un dernier élément ce matin. La connaissance de Dieu commence par la connaissance du Créateur. Ce qui fait que je vais m'approcher de lui, c'est lorsque je découvre qu'il est mon sauveur. Celui qui était peut-être une menace pour moi est en fait maintenant un refuge. Mais il y a une autre dimension à la crainte de Dieu qu'on trouve comme enfant de Dieu. C'est la grandeur de ce Rédempteur. L'année prochaine, on va avoir une conférence avec Sola, qui va être pour célébrer un concile d'Église. Ça ne vous dit peut-être rien, le concile de Nicée. Ça sera plus concret rendu là, puis on aura l'occasion d'en parler d'ici ce moment-là. Mais au 4e siècle, l'Église a vu circuler une question. Il y avait comme une grande question chez les chrétiens. Ils se disaient, qu'est-ce que Dieu faisait avant qu'il ait créé l'univers? Est-ce qu'il jouait au golf, il s'ennuyait? Tu sais, il n'y a pas l'univers. Qu'est-ce que Dieu faisait? Et ça a amené toutes sortes de questionnements. Il y a une fausse doctrine qui a commencé à circuler sur la personne de Christ. Donc, Arius a commencé à dire qu'il n'était pas Dieu. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus ce matin. Comme je vous dis, on va avoir une belle conférence qui s'en vient où on va aller explorer ça en profondeur. Mais un des théologiens de l'époque, Athanase, c'est pas de sa faute s'il y a ce nom-là, sa mère l'a appelé Athanase. Athanase, un des pères de l'Église, a sorti une formule. Et vous allez comprendre où je m'en vais avec tout ça. Il a dit ceci, « Il est plus pieux et plus précis de faire référence à Dieu en parlant du Fils et de l'appeler Père que de le nommer sur la base de ses œuvres. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, c'est manifester une meilleure connaissance de Dieu, de parler de Dieu non seulement comme le Créateur à travers ses œuvres. Tu sais, toi et moi, là, on ne se résume pas à ce que nous faisons. Ce que tu fais, tes œuvres dans une journée, ce que tu as fait dans ta vie, tu es beaucoup plus que la somme de tes œuvres. Tu es une personne. Bien, Dieu, avant d'être Créateur, existait. La Sainte Trinité existait avant. Et donc, ce qu'Athanase dit, c'est bien de connaître le Dieu Créateur, mais avant même qu'il soit Créateur, il était Dieu. Et la Trinité était là. Et donc, de le découvrir comme le Père, le Fils, l'Esprit, waouh! Je découvre sa grandeur, sa beauté. Avant même qu'il soit Créateur, avant d'être Créateur, Dieu était déjà Dieu, il était déjà le Dieu trinitaire, et il avait déjà un plan de salut pour l'humanité, parce que pour Dieu, le temps n'existe pas. Vous allez voir où on s'en va avec ça. Ça nous amène à découvrir un autre aspect de la crainte de Dieu. Dieu est non seulement Créateur dans les Écritures, mais rapidement, il se révèle comme le Dieu Sauveur, celui qui prend soin de nous, celui qui nous aime. Dans Ésaïe 48, versets 12-13, on lit « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, donc le Créateur. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. » Donc, Dieu est Créateur. Dieu est Créateur de tout l'univers, Dieu est Créateur d'Israël. Mais dans Ésaïe 47, verset 4, on lit « Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel. » Le Saint. Et dans Isaïe 63, verset 16, on lit, « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. » Est-ce que je veux terminer avec cette idée-là ce matin. La semaine prochaine, on termine la série. Dans la Bible, on voit cette idée que, comme chrétien, comme croyant, on va craindre Dieu, le Créateur, parce qu'on sait qu'on a accès à lui. Je sais qu'il est mon refuge. Il n'est pas simplement mon juge. Il est maintenant mon rocher, mon refuge, mon abri. C'est mon Sauveur. Mais quand Dieu vient et nous sauve, bien, on entre dans la famille de Dieu. Puis là, il y a une nouvelle crainte qui vient dans nos cœurs. C'est la crainte filiale. C'est la crainte d'un enfant pour un père qui l'aime. La relation qu'un enfant va avoir avec un bon père, qui demeure un père, c'est pas son chum. On appelle ça la crainte filiale. Et ça change tout dans mon rapport à Dieu. Et c'est une autre dimension de ce que Jésus est venu nous révéler. Lui, étant le Fils parfait, nous a enseigné cette crainte-là, filiale. On lit dans Ésaïe 52, versets 13 à 15. Je l'ai déjà lu dans la série. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Et on découvre à travers l'œuvre de Christ qui meurt sur la croix, on découvre à travers le Fils que ce Créateur-là est non seulement notre Sauveur, mais qu'il est notre Père, parce qu'on devient nous-mêmes à notre tour enfants de Dieu. C'est intéressant, dans Romains 8, versets 15-17, l'Esprit de Christ qui était en lui, qui faisait que Christ craignait parfaitement son Père, honorait parfaitement son Père, prenait plaisir à glorifier son Père. C'est ce que les textes disent, hein? Sur le Messie, il y aura un esprit de crainte de l'Éternel. Et donc, ce même esprit qui est en lui vient en nous lorsqu'on devient chrétien. On lit dans Romains 8, versets 15 à 17. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » Donc, ce n'est pas la crainte qui fait qu'on va se sauver loin de Dieu. « Par lequel nous crions, Abba Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Quand Jésus grandit, dans Luc, on lit ceci, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Il grandissait en sagesse. C'est quoi le commencement de la sagesse, selon les Écritures? Si vous voulez un verset clé là, pour la série, c'est Proverbes 9, 10. « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et c'est pour ça que les prophètes nous disent que lorsque le Messie allait venir, quand Jésus allait venir, il allait être habité de la crainte de l'Éternel. Mais ce n'est pas la crainte de celui qui fuit loin de Dieu parce que Dieu est un danger, Dieu est une menace, Dieu est tout-puissant, Dieu est inconnu, Dieu est distant. C'est la crainte filiale d'un enfant envers son père aimant. Ce n'est pas la peur qui me terrifie d'être jeté à l'extérieur de la maison. C'est le désir profond d'aimer et de plaire à mon père, de m'approcher de lui. Et c'est ça qu'on trouve en Jésus. C'est ce qu'on observe chez lui. Et c'est ce même esprit-là qui nous est donné. Le passage que j'ai cité à quelques reprises, c'est dans Ésaïe 11, versets 1 à 3. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Charles Spurgeon, un grand prédicateur, a dit ceci pour essayer d'exprimer cette crainte-là qui est différente. Dans cette crainte d'enfant, il n'y a pas un atome de peur. Nous qui croyons en Jésus, nous n'avons pas peur de notre Père. Que Dieu nous en garde. Plus nous nous approchons de lui, plus nous sommes heureux. Notre souhait le plus cher est celui d'être toujours avec lui, de nous perdre en lui. Toutefois, nous prions pour que nous ne puissions pas l'attrister. Nous l'implorons de nous empêcher de nous détourner de lui. Nous lui demandons d'avoir pitié de nos infirmités et nous le supplions de nous pardonner, de manifester sa grâce envers nous pour l'amour de son cher Fils. Puisque nous sommes des enfants qui l'aiment, nous ressentons un saint émerveillement et une profonde révérence alors que nous saisissons la nature de notre relation avec lui, qui est notre Père dans les cieux. Un Père aimant, tendre, rempli de compassion, mais un Père céleste terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Ma prière, c'est qu'à travers toute cette série sur la crainte de Dieu, votre Dieu, qui était sûrement merveilleux à vos yeux, prenne toute la grandeur, toute l'ampleur de sa magnificence. Que vous ayez envie de venir le rencontrer chaque matin en ouvrant vos Bibles, en allant dans la prière, en allant méditer. Que vous ayez envie de venir rencontrer un Dieu plus fantastique que tout ce que votre imagination pourrait produire, plus grand, plus infini que tout ce que nous pourrons jamais mesurer. Et que vous preniez plaisir à vous approcher de lui. Régulièrement, je parle avec des chrétiens qui me disent, « Écoute, quand ma vie chrétienne ne va pas très bien, quand je manque dans des disciplines, quand il y a un péché qui commence à s'installer, je tombe dans un cycle où je vais simplement m'éloigner de plus en plus de Dieu. » Et à quelque part, je me dis, « Il faut que j'aide cette personne à connaître Dieu. » Parce que Dieu est mon refuge si je suis en Jésus-Christ, alors même que j'ai péché. Le piège pour moi, c'est de voir seulement en lui un juge, alors qu'il me dit, « Je veux te faire grâce, je t'ai sauvé, viens à moi. Approche-toi de ma sainteté, c'est sécuritaire, c'est safe. En Jésus-Christ, viens vers moi. » Et donc, si par moment ta vie chrétienne est médiocre et que ça t'amène à t'éloigner de Dieu, viens connaître Dieu avec nous. Viens le voir dans toute sa grandeur, sa majesté, sa sainteté, sa splendeur, sa toute-puissance, comme ton Rédempteur, ton Sauveur. Que Dieu ne soit jamais pour toi, si tu as la foi en Jésus, une menace, un danger, mais au contraire, un Père bon, aimant, qui corrige ses enfants. Qui corrige ses enfants par amour pour eux, parce qu'il veut leur bien, parce qu'il veut les amener dans la voie de la sainteté, parce qu'il veut les voir grandir en maturité. Si tu es un enfant de Dieu comme moi, tu as une crainte de l'Éternel. Si tu connais le Dieu créateur, le Dieu rédempteur révélé parfaitement à travers l'œuvre de son Fils Jésus-Christ, tu as une crainte de Dieu, parce que tu prends la mesure de sa sainteté, de ses perfections, et tu prends la mesure de son amour. Et cet amour-là n'est pas banal. Dieu n'a pas dit à son fils, « Hey, t'irais-tu me rendre un petit service? J'ai une commission à te faire faire aujourd'hui. Fais un petit détour par la terre, va te faire crucifier. » Non, ce qui s'est passé là, la croix, c'est majestueux. C'est extraordinaire. C'est impressionnant. C'est humiliant. C'est humiliant pour nous de prendre la mesure de Dieu et de prendre la mesure de son amour. Notre âme est humiliée dans le bon sens du terme. Parce que c'est la bonne posture devant Dieu d'être humilié, d'être humble, parce que Dieu est extraordinaire. T'es correct, toi, puis moi aussi, ça ne se compare pas à Dieu. Ah, tu es une créature merveilleuse, mais je ne vais peut-être pas être émerveillé devant toi, tu vois, mais devant Dieu, définitivement. Et si tu ne connais pas ce Dieu-là personnellement, si tu dis, écoute, je comprends que ton Dieu est grand, Yannick, mais moi, je le trouve effrayant. Si Dieu est comme ça, je n'ai pas envie de le connaître. C'est parce que tu n'as pas connu l'amour sublime de Jésus-Christ. Et tu te prives du plus grand protecteur pour ta vie, pas le plus grand, la plus grande menace, le plus grand protecteur pour ta vie, le Dieu Tout-Puissant, qui veut t'accueillir, qui veut te prendre dans sa maison, qui veut faire de toi son enfant. On va aller dans la prière ensemble, et tout de suite après, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. On fait ça une fois par mois. Ça va être vraiment un moment pour être émerveillé devant la grandeur de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu dépasses tout ce qu'on peut imaginer, penser, concevoir. Notre Dieu, tu es. Avant même d'être créateur, tu es. De toute éternité, tu es. Sans aucune nécessité, sans aucun besoin, tu as créé. Ce n'est pas que ça te démangeait, que tu te sentais seul, que le temps était long. Non, tu es parfait de toute éternité, entièrement satisfait en toi-même, complet en toi-même, Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils, Esprit. Et ce matin, nous sommes assemblés pour t'adorer, Seigneur. Ce matin, nous nous approchons de toi avec une grande assurance. Elle n'est pas en nous-mêmes, Seigneur. On ne pense pas que tu avais besoin de nous dans ton équipe. Non, Seigneur. On prend la mesure de ton amour. Et celui qui pourrait pour nous être une menace, c'est maintenant un refuge. Celui qui pouvait nous terrifier, au contraire, nous rassure. Parce qu'auprès de toi, j'ai un sûr abri, Seigneur. Auprès de toi, mon cœur est en sécurité. J'aimerais te prier pour tout et chacun qui écoute ce message ce matin, Seigneur. Je te prie de saisir nos cœurs, de nous conduire dans cet état d'émerveillement devant ta grandeur et ton amour. Oui, Seigneur, nous voulons être émerveillés par ta grâce en Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas intimement comme Dieu et Sauveur, Père, Fils et Esprit, mais qui disent, quel est cet être qui a créé l'univers? Est-il terrible? Est-ce que vraiment on peut le connaître? Est-ce qu'il s'est vraiment fait connaître à nous? Révèle-toi, Père, révèle-toi à travers l'œuvre du Fils. Je t'en supplie, Seigneur, afin que tous puissent connaître et goûter la joie d'être en Jésus-Christ. Et c'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Comme je disais,